Que le nom du Seigneur soit béni pour ces beaux cantiques qui ne peuvent que préparer et disposer nos cœurs à l'écoute de la parole de Dieu. Toute la parole de Dieu est remplie d'invitations. Les cantiques que nous venons de chanter sont des cantiques qui invitent les hommes et les femmes à se préparer, à rencontrer Dieu, à obtenir le pardon de leurs péchés. Dans la Bible, nous avons des textes qui nous prouvent qu'un jour, eh bien, cette invitation s'achèvera. Depuis combien de temps elle dure cette invitation? Depuis 2000 ans. Depuis que Jésus-Christ est venu, il a installé la dispensation de la grâce. Voilà, Ésaïe l'avait prophétisé, il y aura une année de grâce. Une année, c'est pas 365 jours, c'est une dispensation. Et cette grâce s'achèvera. Elle s'achèvera et lors de la fin de la grâce, c'est la colère de Dieu qui va venir sur la terre. C'est des choses terribles, mais sont enseignées. Et dans le livre de l'Apocalypse, à la fin, il est parlé du jugement dernier. Est-ce que vous en avez, est-ce que vous avez déjà réfléchi au jugement dernier? C'est quelque chose de terrible, ça. Le jugement dernier. Est-ce que Jésus en parle du jugement dernier? Ah oui. Est-ce que Jésus parle de la géhenne, des tourments éternels, etc.? Oui. Jésus, il y a des gens qui disent, oh, Jésus, il ne parle que de l'amour. Mais c'est pas vrai. Les gens, ils n'ont pas lu la Bible, c'est une évidence totale. Jésus, il parle de la grâce et il parle de la colère de Dieu. La grâce, nous y sommes. Donc, les chants, ces six beaux chants que nous venons tous de chanter, tiennent tous debout, puisque la porte de la grâce est encore ouverte. Mais, nous allons voir tout à l'heure que Jésus nous demande de nous approcher du trône de la grâce, parce qu'il est assis sur le trône de la grâce. Mais, nous voyons dans l'Apocalypse, au chapitre 20 et au verset 11, ce qu'on appelle le grand trône blanc du jugement. Ça correspond à la seconde résurrection. Est-ce que vous savez qu'il y aura la résurrection des justes? Et la Bible parle qu'après le millénium, au début des nouveaux cieux de la nouvelle terre, il y aura la résurrection des injustes, ce qu'on appelle le jugement dernier. Il faut le lire, c'est écrit dans la parole de Dieu. C'est sobre, mais ça en dit beaucoup. Apocalypse 20, verset 11. « Puis, je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. » Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu, c'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Amen. Et puis après, au chapitre 21, il y a l'établissement des nouveaux cieux, de la nouvelle terre pour tous ceux qui ont échappé au grand trône blanc. Le jour où Jésus sera assis sur le grand trône blanc, il ne fera pas bon être juste en dessous. Ça voudra dire que nous n'avons pas voulu de cette invitation que nous prêchons dans les églises du monde entier depuis 2000 ans. Oui, depuis 2000 ans, ces invitations, partout dans les églises, on a prêché le retour du Seigneur Jésus-Christ, la grâce de Dieu, le jugement dernier. Il y a des livres qui sont écrits, il y a le livre des œuvres, il y a des gens qui font des œuvres, et ils s'imaginent que parce qu'ils font des œuvres, eh bien tout ça va les sauver. On voit une chose, que ce ne sont pas les œuvres qui sauvent. Il est dit que ceux qui seront sauvés sont ceux qui auront eu leur nom écrit dans le livre de vie. Il y a dans le ciel des livres. Il y en a un, est-ce que votre prénom, votre nom est inscrit dessus? Alors, il faut que vous puissiez répondre. Est-ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie? C'est important d'avoir cette assurance. C'est pour ça que Dieu nous invite. Alors, que faut-il faire pour que notre nom soit inscrit dans le livre de vie? Parce que la question, il faut la poser. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut être protestant, évangélique? Est-ce que parce qu'on est évangélique, on est inscrit dans le livre de vie? Mais non. Est-ce que c'est pas parce qu'on a une religion qu'on est inscrit dans le livre de vie. Alors, il faut répondre à une invitation. On va revenir sur un texte qu'on a partagé cet après-midi. Dans l'Épître aux Hébreux, il y a une invitation de Dieu que nous devons accepter. Tous ces gens qui se sont retrouvés devant le grand trône blanc sont des hommes et des femmes qui ont refusé l'invitation. C'est ce qui s'est passé. Combien d'hommes et de femmes, au travers des siècles, ont entendu ce verset que nous allons lire, Hébreux chapitre 4, verset 16. Il y en a des invitations dans la Bible. C'est impressionnant le nombre de fois où Jésus, d'une façon ou d'une autre, invite tous les hommes, même les Antillais, bien sûr. Hébreux chapitre 4, verset 16. « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. » Voyez, on vient de lire qu'il y a un grand trône blanc. Ce texte nous dit qu'il y a un trône de la grâce. Alors, à quoi il sert ce trône? Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'en ce moment, Jésus est assis sur le trône de la grâce. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Mais un peu. Moi, je trouve que c'est, dans le monde d'aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment une très bonne nouvelle. Et cette invitation, elle est valable. Tous ces chants qui expriment vraiment comment obtenir le salut correspondent vraiment à quelque chose. Approchons-nous avec assurance. Approchons-nous. C'est pas nous qu'on peut vous forcer. On ne peut pas vous obliger, on ne peut pas vous pousser. Je le vois, moi, des fois, dans les églises. Il y a des gens à l'appel, « Vas-y, vas-y !» à l'imposition des mains, vous savez. Un coup de coude, « Va à l'imposition des mains. Bon, » est-ce qu'on peut encourager quelqu'un à aller à l'imposition des mains? Oui. Bon, de là à le forcer, ça tient un peu, ça tient du ridicule un petit peu. Je crois que c'est à chacun de nous de choisir ce qu'on veut. Cet après-midi, nous en parlions avec des personnes. Dieu a toujours respecté le libre arbitre. Les démons, qui sont-ils les démons? Est-ce que Dieu a créé les démons? Non. Ce sont des anges qui ont choisi le mal, qui ont choisi de suivre la désobéissance de Lucifer, qui était lui aussi un ange plein de lumière. Dieu respecte la liberté de toutes les créatures, qu'elles soient créées ou comme nous, procréées, Dieu respecte le libre arbitre. Et cette invitation, qu'est-ce que vous allez en faire? Approchons-nous avec assurance. Il y a déjà dans ces premiers mots un très très grand encouragement, à savoir que Dieu vous accepte tel que vous êtes. Il n'est pas dit on va demander au meilleur de s'approcher. Est-ce que Dieu pourrait sélectionner les gens? Est-ce que Dieu pourrait sélectionner? Est-ce que Dieu invite tout le monde? Approchons-nous avec assurance, ça veut dire, comme je suis bien, j'ai de l'assurance, comme j'ai plein de connaissances, bon moi j'ai... Non, approchez-vous avec assurance, ça veut dire, vous pouvez vous approcher de lui, il va pas vous rejeter. Vous pouvez vous approcher tel que vous êtes, il va pas vous mépriser. Approchez-vous, qui que vous soyez. Jésus un jour a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Vous croyez qu'il n'y avait que des gens bien, le jour où il a dit ça? Franchement, est-ce que vous croyez que quand Jésus a dit « Venez à moi, vous tous », parmi la foule qu'il y avait, il n'y avait que des gens prêts à se convertir? Il y avait peut-être des blasphémateurs, des menteurs, vous êtes d'accord avec moi? Des adultères, je sais pas, des bandits? Est-ce que c'est possible? Ben oui. Jésus, il a ouvert grand. Venez, vous tous. L'invitation, elle est pour tout le monde. Et s'approcher avec assurance, c'était l'invitation de dire, c'est bien, tel que je suis, je peux m'approcher de lui. C'est pas l'assurance parce que j'ai fait des progrès depuis 3 ans, donc je suis plein d'assurance à cause des progrès que j'ai fait. Non, approchez-vous avec assurance parce qu'il ne vous rejettera pas. Approchez-vous avec assurance parce qu'il va vous accepter tel que vous êtes. C'est écrit dans la Bible de s'approcher tel qu'on est, avec un cœur sincère. Sincère, c'est-à-dire de pas être un hypocrite. Voilà, je viens tel que je suis. Ça va pas. Ça va pas. J'ai rétrogradé. Est-ce que j'ai le droit de revenir au Seigneur? C'est une image. Hein? Est-ce que j'ai le droit de revenir à Dieu? Est-ce que dans les conditions où je suis? Oui, approche-toi avec assurance. Pourquoi? Parce que il y a un trône aujourd'hui qui s'appelle le trône de la grâce. Combien de gens, des millions peut-être, seront un jour devant le grand trône blanc, et regretteront éternellement, de ne pas avoir pris au sérieux cette invitation lorsqu'ils l'ont lue, lorsque cela aura été prêché, comme c'est le cas ce soir. D'après vous, ce texte, depuis 2000 ans, combien de fois a-t-il été prêché dans les églises du monde entier? Des millions de fois, vous êtes d'accord avec moi? Et parmi cette foule qui se tient devant le grand trône blanc, combien seront malheureux parce qu'ils ont entendu un message? Comment faire pour que notre nom soit inscrit dans le livre de vie? Oui, il faut commencer par s'approcher de Dieu tel qu'on est. Je suis pas bien, ou je vais très bien, j'ai fait plein de choses, ou j'ai rien fait, je peux m'assurer, je peux m'approcher avec confiance, avec certitude de ce Dieu qui ne me rejettera pas, de ce Dieu qui est assis sur le trône de la grâce. S'il est assis sur le trône de la grâce, vous pouvez bien en déduire qu'il va vous accorder sa grâce. Non ? D'ailleurs, c'est écrit. Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. Voilà les deux premières choses dont un homme a besoin. De trouver la miséricorde. La miséricorde nous parle toujours de la bonté du Seigneur. Notre Dieu, il est miséricordieux. Quand Moïse questionne le Seigneur, quand il s'est révélé à lui par rapport au fait qu'il devra sortir les Hébreux d'Égypte, et dit, mais quand ils me demanderont quel est ton nom, qu'est-ce que je vais leur dire? Tu leur diras, je suis celui qui suis. Et il ajoute, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Voilà mon nom de génération en génération pour l'éternité, le Dieu grand et miséricordieux. Pour l'éternité. C'est pas rassurant que Dieu soit un Dieu de miséricorde pour l'éternité. La première chose dont on a besoin, c'est de la miséricorde. Vous vous dites, non. Moi, ce que j'ai besoin premier, c'est que Dieu me guérisse dans mon corps, parce que je suis malade. Alors, de quoi avons-nous le plus besoin? De la miséricorde de Dieu ou de la guérison de notre corps? Combien de gens ont été guéris? Combien de gens ont été touchés d'une manière extraordinaire par la puissance de Dieu? Et la preuve qu'on a d'abord besoin de miséricorde, vous vous souvenez, le jour où ces quatre amis ont fait descendre par le toit leur ami au pied du Seigneur Jésus. De quoi Jésus s'est-il occupé en premier? De son corps ou de son âme? Qu'est-ce qu'il a dit à cet homme qui était là, en train de perturber un peu la réunion, hein? Qu'est-ce qu'il va y dire, Jésus? Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y en a qui auraient pu dire, mais ce n'est pas pour ça qu'il vient. Mais il était venu pour ça. Il était aussi venu pour ça. D'ailleurs, les pharisiens qui étaient scandalisés de ce que Jésus prononce le pardon sur un homme, ils ont dit, mais pour qui se prend? Il n'y a que Dieu qui pardonne. Ils n'ont pas compris, justement, que Jésus était Dieu incarné, dépouillé de sa gloire, mais qu'il avait le pouvoir de pardonner. Et pour que tout le monde comprenne bien, il va dire, or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, prends ton lit, lève-toi et marche. Ou lève-toi, prends ton lit et marche. Et le gars, il est parti. C'était bien? Et là, la foule a dû se serrer pour le laisser partir. Est-ce que c'était bien? De quoi Jésus s'est-il occupé en premier? Du pardon de ses péchés. C'est ça la miséricorde. À quoi ça sert d'avoir été guéri 5 fois de suite? À quoi ça sert d'avoir vu Dieu pourvoir d'une façon ou d'une autre si on ne s'occupe pas du pardon de ses péchés? La première chose que Dieu veut que nous obtenions, c'est sa miséricorde, c'est-à-dire le pardon de nos péchés. C'est une invitation, elle tient toujours, elle est d'actualité. Elle est d'actualité. Moi, je bénis Dieu pour sa patience infinie. Elle est là, le trône de la grâce est occupé par un grand sauveur merveilleux. Sur le trône de la grâce, il y a un Seigneur qui s'appelle Jésus-Christ, couronné de gloire et d'honneur. Ce Seigneur qui est ressuscité, qui s'est manifesté à Marie, etc., de Magdala, qui s'est manifesté aux 12, aux 500, etc., c'est le même qui actuellement, à la seconde où je vous parle, est assis sur le trône et il veut vous faire grâce. Alors, est-ce que vous vous êtes approché de lui? Est-ce que vous vous êtes déjà approché de lui? Ou est-ce que vous faites comme des multitudes d'hommes et de femmes qui disent « Mais moi, je n'ai pas besoin, mais j'ai ma religion. » Mais si vous pensez que votre religion vous sauvera, vous vous en expliquerez avec Dieu, mais moi j'ai le devoir de vous dire que votre religion ne vous sauvera pas. Vous auriez la meilleure religion du monde, la religion ne vous sauvera pas, c'est Jésus qui vous sauvera. Il l'a dit, nul ne viennent au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, cette invitation, elle vous est adressée. Il vous faut l'accepter, il vous faut y réfléchir. Elle est très, très, très intéressante parce qu'elle vous donnera pour l'éternité la grâce éternelle. La Bible parle de la grâce éternelle, de la bénédiction éternelle, et même il nous dit qu'on peut appeler notre Dieu Père éternel. Vous ne trouvez pas que c'est touchant, ça ? Moi, je trouve que c'est bien. Approchez-vous avec assurance. Il ne faut pas s'approcher en disant, je ne sais pas, mais est-ce que c'est vrai ? Ne doutez pas. Il ne faut pas douter. Ce que vous pensez, c'est bien ou c'est pas bien, mais ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est ce que Dieu dit. Ne doutez pas. La Bible dit que Dieu vous aime. Que Dieu est amour, qu'il a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Quel est ce Dieu auquel je vais avoir affaire ? Eh bien, c'est un Dieu de grâce, un Dieu de pardon, un Dieu de miséricorde, un Dieu qui ne vous méprisera pas, même si vous l'avez méprisé. Oui, approchez-vous. N'attendez pas qu'il soit trop tard, comme ce mauvais riche. Je pense souvent à ce mauvais riche, je ne l'ai pas personnellement connu, vous le comprendrez. Je pense souvent à lui. Parce que quand il fait chaud comme ça et que je bois, c'est quelque chose que j'apprécie personnellement. Je ne sais pas vous, comment vous appréciez quand vous buvez quelque chose de frais l'été ? Vous appréciez ? Est-ce que c'est bien ? Prendre de la glace, de préparer un bon jus d'orange, est-ce que c'est bien ? Je pense à ce pauvre bougre, enfin ce pauvre riche, qui dans le lieu de tourment disait « Abraham, dis à Lazare qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau » et qu'il me trempe, et qu'il me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. N'oublions pas, c'est Jésus qui parle. S'il y avait bien quelqu'un qui était adapté pour nous parler de l'au-delà, je pense que c'est bien le Seigneur. Et il indique la souffrance de ne pas avoir accepté la grâce, la miséricorde de Dieu. Cet homme était vêtu de fin lin, vous voyez, c'est l'image du gars qui avait l'apparence d'être un chrétien. Vous savez que dans le ciel, nous aurons des habits de fin lin. Vous le savez ? Vous avez déjà vu du fin lin ? C'est bien ? Pas de transpiration, c'est rien. Et cet homme, il avait une robe de fin lin. Vous voyez, il avait l'image de la piété. Parce qu'il donnait des petites miettes aux pauvres. Il devait se dire quand même, avec ça, je vais m'en sortir. C'est ce que beaucoup ont pensé, puisque devant le grand trône blanc, les livres vont être ouverts, et ce sont les livres des œuvres. Ça veut dire que les gens vont dire, mais moi j'ai fait ça pour toi. Mais voilà, c'est pas ça qui fera que nous serons inscrits dans le livre de vie. Oui, cette invitation, elle est pour tous les hommes. Qui que vous soyez, que vous ayez rétrogradé ou pas, que vous soyez loin de Dieu ou pas, que vous sentiez ce besoin de refaire une expérience avec Dieu, de vous réapprocher de Dieu pour être tout à nouveau rafraîchi par la grâce de Dieu, approchez-vous du trône de la grâce. Il y a un Dieu qui ne vous rejettera pas. Jésus l'a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Trouvez miséricorde et il ajoute, trouvez grâce. Combien d'hommes et de femmes ont été bénis en obtenant le pardon de leurs péchés, mais s'en sont éloignés. Ils ont fait une avancée dans le royaume de Dieu, ils ont accepté Jésus, ils ont trouvé miséricorde, mais le monde les a tout à nouveau attirés. Ils n'ont pas trouvé la grâce. Ils ont trouvé la miséricorde, mais ils ne se sont pas installés dans cette grâce de Dieu, et ils ont tout reperdu. C'est pour ça que Dieu nous demande de nous approcher du trône de la grâce et de trouver de la miséricorde et de trouver la grâce. Parce qu'on a besoin tous les jours de la grâce de Dieu. C'est David qui disait, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les dimanches, tous les jours de ma vie. C'est beau de pouvoir dire ça. Est-ce que c'est bien de pouvoir... Franchement, c'est pas bien ça de pouvoir dire, oui, je sais, j'aurai des épreuves, j'aurai des contrariétés, il y a des luttes et des combats, j'ai mes faiblesses, mes manquements, mais qu'importe. Je sais que s'il restaure mon âme, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est pas bien ça ? Oui, il s'est installé, David, enfin on le voit bien. Pourtant, il y a eu deux ou trois étapes difficiles, mais il s'est installé dans la grâce de Dieu. C'est pour ça que quand on s'approche de Dieu, en vérité, on s'installe dans la grâce. Et Dieu fait grâce. Il faut trouver grâce. Vous avez vu le verbe qui est utilisé ? trouver grâce, ça veut dire qu'il faut continuer à chercher. Et vous lisez un verset. Cette semaine, j'ai été interpellé par un verset dans un psaume, mais vraiment interpellé. Et ça m'a permis d'aider quelqu'un qui ne comprenait pas une situation difficile qu'il était en train de traverser. Je pensais que c'était pour moi bien, c'était bien pour moi, mais c'était 10 fois mieux pour la personne qui avait besoin de ce verset, qui correspondait exactement à ce qu'elle était en train de vivre, et ça lui a donné, ça lui a ouvert vraiment l'esprit, comme dit la Bible, il leur ouvrir l'esprit, mais là on comprend parfois que Dieu peut nous ouvrir l'esprit. Oui, trouver grâce, apprécier de lire la parole de Dieu, de veiller chaque jour, comme on l'a vu dimanche, si vous étiez là, de veiller attentivement sur son âme tous les jours de sa vie. Et troisièmement, pour être secouru dans nos besoins. Est-ce qu'il y en a des besoins? Est-ce que vous en avez des besoins? Ah ouais, il y en a des petits, il y en a des grands. Donc, quand on s'approche du trône, vous pouvez obtenir la miséricorde, le pardon des péchés, la paix dans votre âme. Vous pouvez trouver cette grâce qui fait que vous vous installez dans cette bénédiction. Et troisièmement, quand vous vous approchez, vous savez que Dieu interviendra au moment opportun, au moment où il vous faudra avoir la grâce, le secours, Dieu vous le donnera. Nous, on aimerait que Dieu agisse de suite. C'est pas vrai? Nous, on est quand même conçus de sorte qu'on aimerait que ce que l'on demande à Dieu, il le fasse de suite. C'est vrai ou c'est pas vrai? Vous êtes comme ça? Ah, Seigneur, tu vois, fais ça. Joseph a été appelé par Dieu. Son épreuve n'a duré que 13 ans, elle a duré. 13 ans, son épreuve. Est-ce qu'elle n'aurait pas pu être plus courte? Vous ne croyez pas que Dieu savait au moment opportun quand est-ce qu'il fallait le sortir? Oui, Dieu l'a sorti au moment opportun. Il l'a secouru. Mais dans la prison, est-ce que Dieu était avec lui? Est-ce que c'est écrit, Dieu était avec Joseph dans la prison? Donc Dieu l'a secouru après, pendant et tout le temps. Dieu l'a toujours secouru, mais il sait quand est-ce qu'il doit intervenir pour toucher quelqu'un, pour amener une conviction de péché dans le cœur de quelqu'un. C'est quelque chose qui nous dépasse. Mais voyez, quand vous vous approchez du trône, quand vous ouvrez votre Bible, c'est une façon de s'approcher du trône de la grâce. Non, quand vous ouvrez votre Bible. Seigneur, tu vois, je vais lire. Seigneur, je sais que tu me secourras. Tu es un secours qui ne manque jamais. Il n'est pas dit qu'il le fait de suite. Il le dit qu'il le fait en son temps. Et c'est ce qu'il faut comprendre quand on s'approche de Dieu. Dieu fait les choses en son temps. Nous, on voudrait, je le répète, qu'il agisse de suite parce que nous, on est vite contrariés. C'est pourquoi Dieu n'a pas exaucé. Je ne comprends pas, je prie, je jeûne. Écoutez-moi, continuez à prier. Continuez à jeûner si vous l'avez à cœur. Parce que ça peut arriver qu'à des moments, des situations nous poussent à nous écarter, à nous retrouver. Moi, je crois que le vrai jeûne, en plus, on n'a pas faim du tout, parce que la peine est plus grande que la faim. On a besoin de se retrouver seul. Mais de toute façon, si vous vous approchez, le Seigneur vous fera miséricorde. Vous trouverez grâce et vous serez secouru. Que le nom du Seigneur soit béni. Tous ces gens qui se trouveront devant le grand trône blanc n'auront pas accepté cette invitation. Vous connaissez les textes où Jésus dit, voilà, il renvoya une émissaire pour dire, voilà, venez, on n'a pas le temps, on vient de se marier, on n'a pas le temps, je viens d'acheter une nouvelle voiture, je n'ai pas le temps, je viens d'acheter un terrain. Vous connaissez? Je n'ai pas le temps. On n'a pas le temps de s'occuper de son âme. Quelle misère, quel désarroi, quelle folie de ne pas penser à son éternité. C'est pour cela qu'il y aura de grandes bénédictions. C'est pour ça qu'il est dit, voyez, on a lu le texte du grand trône blanc pour ceux qui vont passer la deuxième mort, parce qu'il y a la mort, il y a la mort physique, et puis il y a la mort spirituelle, c'est-à-dire une séparation éternelle. Il parle de la seconde mort, mais la Bible parle de la première résurrection. Il n'y aura pas de seconde mort. Alors c'est où ce verset? Ah ouais, Apocalypse, on peut le lire. Ça c'est la phase de la première résurrection. Il y a 1000 ans de différence entre la première résurrection, on ne va pas rentrer ce soir dans ce sujet, mais entre la première résurrection et la deuxième résurrection, il y a le millénium qui sépare les deux affaires. Mais on va lire la première résurrection parce que c'est celle qui nous intéresse. Si vous vous êtes repenti, si vous vous êtes converti, si vous restez dans la grâce de Dieu, si vous restez fidèle au Seigneur, vous serez soit enlevé, pour l'avènement du Seigneur, soit vous participerez à la première résurrection. Ça, c'est autre chose. Apocalypse 20, verset 4. « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assurent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front, ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. » Voyez ? C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Alors comment ça se passera, on ne sait pas trop. Mais enfin, je comprends pourquoi il est écrit « Heureux ceux qui auront part à la première résurrection ». Ce sont ceux qui ont dit oui à l'invitation. Ce sont ceux qui ont dit quoi ? Le Seigneur m'invite, comme je suis, malgré mon péché. Pourquoi ? Parce que Calvaire, il a versé son sang pour que vous puissiez avoir votre nom inscrit dans le livre de vie. Et quand quelqu'un se repent, pas regretter, « Ah, je regrette ce que j'ai fait, c'est pas bien, je recommencerai plus. » Et on recommence. Il n'est pas dit « Regrettez, regrettez ce que vous avez fait. » Non, il est dit « Repentez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. » Et votre nom sera inscrit dans le livre de vie. Voilà, heureux, oui c'est clair, heureux ceux qui font partie du premier voyage. Mais ça c'est évident, vous ne croyez pas ? Alors est-ce que vous ferez partie du premier voyage ? Est-ce que vous avez, parce que ça dépend de vous. Ne dites pas comme un jour quelqu'un m'a dit, ah mais c'est, Dieu choisira. Mais j'ai dit, mais il a déjà choisi. Puisque quand il est mort sur la croix, il a déjà choisi. Non, il n'a pas choisi. Pour que vous choisissiez la vie, alors on va fermer les yeux quelques instants. Il y a peut-être quelqu'un qui dit, mais je ne veux pas voir Jésus sur le grand trône blanc. Moi, je veux le voir sur le trône de la grâce. C'est une affaire sérieuse. C'est l'éternité. Là, ce n'est pas un contrat de travail. Ce n'est pas un CDD, c'est quelque chose de plus sérieux qu'un contrat à durée déterminée sur la terre. C'est un contrat éternel. C'est un CDE, voilà. Est-ce que vous avez l'assurance du salut ? Est-ce que vous êtes sûr que votre nom est inscrit dans le livre de vie ? Est-ce que votre nom est inscrit dans ce merveilleux livre ? Je ne sais pas qui c'est qui écrit dans le ciel, mais quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur d'avoir son nom écrit dans le livre de vie. Oui, approchez-vous avec assurance. On pourrait peut-être chanter un cantique, je ne sais pas si notre frère Gérard Malius a préparé un cantique, qu'on en reprenne un, qu'on en chante un nouveau. Pendant ce cantique, il y a peut-être quelqu'un qui dit, moi, je veux me repentir, je veux me convertir, je ne veux pas comparaître devant le grand trône blanc. Je choisis cette invitation, d'autant plus que tu ne me méprises pas, tu ne me rejettes pas. Oui, tu me fais grâce, tu m'accordes la miséricorde. En plus, j'ai cette certitude que tu sauras me secourir au moment opportun. Oh, quelle grâce, oui. Oui, Jésus est assis ce soir. Ce soir, Jésus est assis sur le trône de la grâce pour vous faire grâce. Alors si quelqu'un veut donner sa vie à Jésus, si quelqu'un veut lui redonner sa vie, si quelqu'un a besoin de secours, de miséricorde, de grâce, n'hésitez pas à vous approcher. C'est entre vous et Dieu, c'est quelque chose de sérieux, de personnel. Dimanche après-midi, vous assisterez à plusieurs baptêmes de jeunes qui ont choisi de s'engager, de se repentir, de se convertir. Vous pourrez assister à ce service de baptême, vous verrez un petit peu mieux ce qu'est l'engagement avec Dieu. Mais en attendant, c'est peut-être votre tour ce soir de dire « oui, je veux me repentir ». Je ne veux plus vivre dans ce regret, dans ces hauts, dans ces bas. Je viens, je m'en vais, je recommence. Non, je me repens. Et si vous vous repentez, votre nom sera inscrit dans le livre de vie. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen.